estuvimos como dormidos, ¿no? Nos sentíamos como culturalmente, ¿no?
Était culturellement comme endormi et avec la pénétration des petits frères, on a dû se réveiller et agir.
Personne va avoir envie de reproduire des paroles s'il n'y a pas des actes derrière. C'est le nom de l'émission, non?
Épisode numéro 9. Des paroles et des actes.
Tout aurait été sous les eaux. C'était vraiment un immense barrage. Là, ça dit respectez nos droits.
Voyage inter-indigène. Une mémoire des hommes qui s'efface.
Anna.
Une série d'Anne Pastor.
Inuits, Indiens, Pygmées, Aborigènes, ils sont près de 370 millions à vivre en Amérique, en Amazonie, en Afrique ou en Australie. Souvent réduits à l'image d'objets de curiosité, ces peuples sont pourtant notre mémoire et les gardiens de savoirs ancestraux. Alors peut-être est-il temps de les écouter. Des paroles et des actes. Direction l'île de Bornéo en Malaisie et la Sierra Nevada en Colombie. À Bornéo, les Pénans se battent contre la construction d'un barrage qui doit déplacer plus de 20 000 personnes et inonder 400 km² de forêt tropicale. Aujourd'hui, ils disposent d'une nouvelle arme, les drones, pour surveiller et cartographier leur territoire. En Colombie, les Indiens Cogis ont survécu aux conquistadors, aux narcotrafiquants et à la déforestation en se réfugiant toujours plus haut dans leurs montagnes. Aujourd'hui, ils reprennent possession peu à peu de leurs terres grâce au soutien d'ONG internationales. Deux peuples, deux continents et un voyage au cœur du réveil des indigènes.
Vous êtes inter-indigène sur France Inter.
Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Stop Baram Dam!
Stop Baram Dam!
En Malaisie,
hip hip hooray!
J'ai les Pénans de Bornéo.
This place is.
Ce lieu et surtout cette barricade ici est presque devenue une attraction touristique.
Tourist attraction.
Je pense que c'est le blocage le plus long de l'histoire du Sarawak.
Continuously man blocked ever in Sarawak.
Stop Baram Dam.
Stop Baram Dam.
The day because we started.
Ça c'est le jour où on a commencé le blocage.
October
2013.
So now it's 769 days.
Et aujourd'hui, on en est au 769e jour.
Stop Baram Dam.
Stop Baram Dam.
La rivière du Baram n'est pas très loin, 3 ou 4 km environ. Et cette barricade a été mise en place pour les empêcher de construire cette route. C'est une structure très simple, presque symbolique au fond. On a placé des branches, des troncs d'arbres sur la route pour les empêcher d'avancer. Et on a mis de la tôle par-dessus. Et il y a aussi des croix parce qu'on priait en installant la barricade. C'est vraiment une toute petite structure. N'importe qui peut l'enlever. C'est pour ça qu'en 2 ans, elle a été détruite 12 fois. Mais à chaque fois que les entreprises ou le gouvernement la détruisent, les gens du village la remettent en place. Parfois 100 ou 200 personnes viennent.
Est-ce que vous pensiez un jour, vous qui avez travaillé toute votre vie comme ingénieur, que vous alliez devenir le leader de cette contre-offensive?
Non, ça ne m'est jamais venu à l'idée. J'ai juste été poussé à faire cela par ma colère et par mon amour pour cet endroit, ce pays, cette culture. Parce que si le barrage est construit, la nature sera détruite et les gens seront déplacés. Ils perdront leur culture. Cette lutte est celle de nous tous pour protéger notre identité. Parce que nous sommes une petite minorité dans ce pays. Les indigènes, on représente 5% de la population en Malaisie. Alors si ce barrage est construit, un jour, il n'y aura plus de Pénans. On perdra notre culture, notre langue et nos traditions. Et bien sûr la terre. Quand ça a commencé, je ne pensais pas du tout que l'on réussirait. Je suis très ému.
Oh, vous avez les larmes aux yeux quand vous en parlez.
C'était une lutte très longue, mais c'est une victoire.
Stop Baram Dam.
Stop Baram Dam.
Stop Baram Dam.
C'est contre la construction de 12 barrages géants que les Pénans résistent depuis 5 ans. Un projet gouvernemental qui, d'ici 2030, doit permettre la production de plus de 20 000 mégawatts dans l'état du Sarawak, sur l'île de Bornéo, en Malaisie. Dans la vallée du Baram, 3 barrages étaient prévus. Mais c'était sans compter la résistance des Pénans, ce peuple traditionnellement chasseur-cueilleur, aujourd'hui sédentarisé suite à l'exploitation forestière. Ces barrages les obligeraient encore une fois à se déplacer. De manifestations en barricades, aujourd'hui, ils sont en passe de gagner leur combat, grâce notamment à Peter Kalang, un petit homme de 63 ans, ingénieur à la retraite, qui a dit non au progrès imposé.
Ma première réaction a été la colère. Ce n'est pas du tout transparent. Personne n'était au courant. On l'a découvert parce qu'ils sont allés en Chine faire la promotion d'une énergie bon marché. Une compagnie chinoise a mis l'information sur Internet, mais ce n'était pas supposé se retrouver en ligne. S'ils avaient réussi à faire ce barrage, 36 villages auraient été inondés. Près de 20 000 personnes auraient été déplacées. Les gens auraient dû partir ailleurs, mais on ne sait pas où. L'eau serait allée jusqu'à un endroit qui s'appelle Longue et qui est à environ 3 heures de route d'ici. C'est là que ça devait s'arrêter. C'était vraiment un immense barrage, 40 000 hectares.
Et ici, encore des slogans.
It says here, our forefathers fought and died for this land.
Cela dit stop au barrage sanglant.
Stop the bloody dam.
Baram est à nous pour toujours.
Voilà. Et Peter Kalang nous a lu ce slogan en pleurant tellement c'est encore vif.
Là, ça dit respectez nos droits.
Vous habitez dans le village un petit peu plus haut et vous êtes arrêté quand vous nous avez vus.
Je voulais voir ce qui se passait, qui était là. Nous soutenons tout ce que vous avez fait contre le barrage. Ici, on a tout ce dont on a besoin. On peut pêcher, on vit dans une belle forêt, et le développement que le barrage devait amener n'est pas une bonne chose. En théorie, le projet est intéressant, apporter de l'électricité. Mais le problème, c'est que ce n'était pas pour nous. D'ailleurs, aujourd'hui, on a nos propres générateurs, on n'a besoin de rien.
L'électricité produite par le barrage n'était pas destinée aux gens d'ici, mais à l'industrie lourde qui pollue énormément. Par exemple, ils voulaient vendre du ciment et ces industries appartiennent à des hommes de la classe politique. Il y a beaucoup de corruption ici. Aucune consultation n'a eu lieu auprès des habitants. Ils sont juste venus nous consulter après nos manifestations. Leur méthode n'est pas la bonne. Ils ne sont pas allés voir les gens concernés par le projet, mais les chefs des communautés. Et ces chefs, ils sont payés par le gouvernement. Alors forcément, ils sont d'accord avec tout ce que le gouvernement propose. C'est logique.
Peter, je ne crois pas qu'il ait voulu devenir un leader. Par contre, c'est une personne qui était là à un moment donné, avec une opinion bien précise. Et les événements ont fait que ce personnage s'est transformé littéralement en un leader charismatique. Et il a réussi à entraîner un mouvement national, supranational, donc international, pour lutter contre ces barrages hydroélectriques.
Lakesiman de la fondation BMF.
Très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait une forte volonté de la population pour se défendre contre ces projets qui déjà à nous, nous paraissaient insensés. L'ensemble du Sarawak s'est senti concerné par ce qui se passait ici. Mmh. Et c'est aussi grâce à ça que la pression a été si forte sur le gouvernement.
Stop this dam project. The people of Baram do not want the dam project. We demand that the government stop this Baram dam project.
Our problem with our people here, we are very, very shy people.
Ici, notre problème, c'est qu'on est timide. On n'a pas l'habitude de contredire nos leaders. Go against our leaders. C'est pour ça que c'est dur pour nous de lutter contre ce projet, car c'est lutter contre nos propres chefs. Je suis si heureux qu'on ait eu le cran de contredire nos leaders. Mais un grand nombre de chefs ont perdu leur emploi de chef de village parce qu'ils nous soutenaient. Le gouvernement nous a menacés et les chefs de village, des membres de leur famille ont été arrêtés. Mais moi, ils ne m'ont pas encore attrapé. Quand on a appris qu'ils allaient faire le barrage, de nombreuses personnes ont voulu protester, mais il n'y avait pas de coordination. On a donc décidé de rassembler toutes les ONG qui étaient sur le terrain pour dire « battons-nous ensemble, sinon on ne sera pas fort ». En novembre 2011, on a ainsi créé un réseau d'ONG.
We want to preserve our river. We want to preserve our forest. We want to preserve our land.
We did this also not only here but also.
On a aussi fait des manifestations en ville. On a répandu le message partout. On est allé à la conférence internationale des producteurs d'énergie hydraulique. Il y avait là des constructeurs de barrages venus du monde entier.
And I was able to stand up.
Et j'ai pu faire une intervention où j'ai dit, si vous êtes vraiment intéressé par l'idée d'amener le progrès, alors les gens qui sont les premiers concernés, les gens qui seront noyés, devraient être ici, à cette conférence. Là, vous parlez à des gens qui viennent du monde entier, mais qui ne souffrent pas de ce barrage. Ici, vous êtes juste intéressé par l'argent. Et les gens qui vont être noyés, vous leur refusez l'accès. Vous dites travailler selon les processus de consultation définis par les standards internationaux, mais c'est faux. Vous dites quelque chose, mais vous faites le contraire. Voilà ce que j'ai dit ce jour-là.
Tout était déjà planifié, tout était prêt. Les entreprises avaient certainement acheté du matériel à l'avance. Bref, il ne manquait plus que les travailleurs pour la route d'accès, on le voit bien ici, est prête. Sur le papier, tout avait été préparé. Je pense au niveau de l'infrastructure, des machines, tout était prêt. Seulement, ils avaient oublié de consulter la population qui ne s'est pas gênée de se manifester.
Vous êtes en terre indigène sur France Inter.
Ça a été une lutte très difficile. On est allé en Australie, on est allé à Sydney. On est allé au Parlement australien chercher le soutien des écologistes pour qu'ils nous aident. Parce qu'en Australie, Hydro-Tasmania se présente comme le plus gros fournisseur d'énergie verte du pays. On a déclaré qu'au Sarawak, ils n'agissaient pas de manière écologique. Ils noient des forêts, ils forcent les gens à quitter leurs terres. Ce n'est pas une énergie verte, c'est une contradiction. On leur a dit qu'on allait alerter la télévision australienne et ils ont eu peur de cela.
Sans la pression internationale, bien sûr que le gouvernement du Sarawak n'aurait pas besoin de rendre des comptes à qui que ce soit. Il est certain que les suspicions de corruption, les suspicions de mauvaise gestion du projet, les suspicions du manque d'intégration des communautés locales ne font pas une bonne publicité à la Malaisie et à l'état du Sarawak. Cet événement du barrage du Baram va certainement avoir une influence au niveau politique. La population l'a emporté avec le soutien justement des masses populaires.
La morale de l'histoire tient peut-être dans ce slogan « Vous ne pouvez plus décider ». À notre place.
La prochaine fois que vous aurez un projet, parlez-nous avant de ce projet, on vous dira ce qu'on en pense, avant de vouloir passer en force et de perdre des millions. Il y a des millions qui ont été investis dans ce projet et finalement cet argent a été brûlé pour rien parce qu'en fait ils ne vont pas pouvoir réaliser ces plans et c'est quand même, ça aurait été plus simple de faire les choses différemment.
C'est la corruption le problème. Ce n'est pas seulement une question de respect des droits de l'homme ou de l'environnement. Cette lutte est aussi une lutte contre la corruption. En ce moment, il y a plein de personnes qui ont vu leurs terres confisquées par le gouvernement pour faire de grandes plantations. Et elles ont rejoint le mouvement. Et on lutte tous ensemble, main dans la main, contre les confiscations de terres. On refuse le barrage, mais on veut aussi que ces déforestations illégales cessent.
Face à la résistance, le gouvernement malaisien a décrété récemment un moratoire sur le projet de barrage de la vallée du Baram. Un moment de répit, mais la forêt n'est pas pour autant sauvée. Chaque jour, des centaines de camions géants défilent sur les pistes de Bornéo. Ils sont chargés de troncs d'arbres de 20 mètres de long, des arbres centenaires arrachés à la forêt. Ce défilé de camions, c'est le bruit de la déforestation. Aujourd'hui, il ne resterait que 10% de forêts primaires dans l'état du Sarawak, alors que les plantations pour la production d'huile de palme s'étendent souvent à perte de vue. Aux avant-postes de ce désastre écologique, Peter Kalang a installé un village de résistance contre le barrage. Joe est le gardien, il vit ici avec sa famille.
Ce que je fais généralement, c'est que dès que je vois des personnes qui arrivent sur la zone, j'appelle des gens à Miri, à la ville, et aussi des gens qui sont en amont de la rivière. On a la chance d'avoir le téléphone ici, et on peut les avertir tout de suite. Ils viennent voir ce qui se passe et vérifier qu'il n'y a pas quelque chose de suspect.
Et vous allez rester combien de temps ici ?
On espère réellement que le barrage ne sera pas construit. Mais tant que les autorités n'ont pas enterré définitivement et publiquement ce projet, on restera ici.
Même si le gouvernement prétend que le projet est enterré, on ne leur fait pas confiance. Ces deux dernières années, ce sont les compagnies d'exploitation forestière qui nous posaient les plus gros problèmes en cherchant à rentrer dans la zone. En même temps, on lutte pour la préservation de l'environnement. Ici, à Bornéo, c'est une des zones où la biodiversité est la plus riche sur Terre. Si on détruit cette nature, ce n'est pas seulement la zone du barrage qui sera touchée, mais c'est l'humanité tout entière. On perdrait des milliers d'espèces qui ne sont même pas encore répertoriées.
This side is not possible. We cannot land on that side.
Vous êtes en train de repérer un endroit pour faire décoller le drone.
L'avion est prêt. On va le lancer. Je vais démarrer le moteur. Still, more, further, that way. Ok.
Si par hasard le gouvernement venait refaire des travaux pour essayer de quand même développer ce projet de barrage hydroélectrique, si par exemple il y avait des activités de déforestation illégale, les communautés peuvent nous contacter et très rapidement, grâce à ce drone, on peut aller sur place, faire voler le drone au-dessus de ces zones et donc collecter des photos aériennes qui peuvent servir d'évidence pour lutter contre ces activités illégales. Donc là, il est à 78 mètres d'altitude. Et donc là, maintenant, il va commencer la mission, on le voit bien, pour prendre des photos. Ok, voilà, maintenant, il prend les photos. Dès l'instant où il redescendra, on aura les photos. On va pouvoir les travailler. Si, au cas où, dans le futur il devait y avoir des activités qui allaient se passer, on reviendra et on pourra d'une manière très claire prouver la différence. Le fait que le gouvernement et que les compagnies d'exploitation forestière sachent que ce moyen est entre les mains des populations locales, rien qu'au niveau psychologique, ça pourra déjà très certainement les empêcher ou bien les faire réfléchir à deux fois avant de prendre des mesures pour venir voler des terres aux communautés locales d'un village.
C'est un moment unique, Peter, pour vous.
Oui, c'est vraiment un moment unique. On peut entendre le chant des oiseaux, le ruissellement de la rivière. Tout cela n'existerait plus si le barrage était construit. Je pense que c'est une bonne chose de prendre des photos pour qu'on puisse montrer exactement ce qui se passe ici et comment les gens résistent et comment le gouvernement insiste pour construire ce barrage. Je veux que le monde entier le sache. Je suis certain qu'on peut arrêter ce barrage et trouver d'autres manières de se développer.
On va devoir gentiment maintenant commencer à se préparer pour l'atterrissage.
50, 40.
Ok, Tani, tu es ready for landing?
Là, Peter est en train de dire à Tenny, écoute, je suspecte la déforestation illégale. Est-ce que tu peux me donner ton téléphone et quand je serai sûr, je vais vérifier, je t'appelle et on fait un vol de drone.
L'idée, elle est là, c'est que maintenant, on a l'ensemble des intéressés qui sont présents ici. Un représentant de la communauté Penan qui est le pilote du drone, qui lui sera capable de venir survoler des zones bien précises. Et en très peu de temps, ils récolteront les données, les images, et pourront très facilement les transmettre à l'avocat, Simon Sia, qui est ici devant nous, qui lui, ensuite, sera capable de prendre des actions juridiques contre les compagnies qui ont des actions illégales.
Et vous qui êtes avocat, pour vous, c'est un outil extraordinaire?
Oui, je pense aussi. Cette zone, les juges des tribunaux ne peuvent pas s'y rendre. On doit leur montrer les photos prises du ciel. Les communautés connaissent bien ce territoire. Rien qu'en regardant les photos, ils peuvent vous dire où c'est et quelle est cette rivière, par exemple. Les communautés n'ont pas forcément de titre de propriété. Donc ces photos sont d'une grande utilité quand on va dans les tribunaux, car on a besoin de preuves rapides et ce drone peut nous en fournir.
C'est vraiment une nouvelle manière de mener le combat.
C'est une manière, on va dire, un peu dans l'air du temps, une manière instantanée, une manière rapide et efficace de faire valoir ses droits.
Et pour information, ce sont les Inuits au Canada qui les premiers ont cartographié leur territoire et ont fait passer le message.
Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! That says, respect our rights.
Vous êtes un terre indigène.
Stop the bloody dam. Stop the bloody dam.
Sur France Inter.
Stop Baram Dam.
Stop Baram Dam.
Hip hip, hooray. When we first started, I never imagined that we
Quand ça a commencé, je ne pensais pas du tout que l'on réussirait.
I feel very emotional because
c'était une lutte très longue. Long struggle. Mais c'est une victoire.
À 20 000 km de là, au Brésil, les mêmes bruits de la déforestation. C'est un massacre à la tronçonneuse au cœur de la jungle amazonienne. 40% de la forêt primaire de l'état de Rondônia a été détruite en moins de 50 ans. Face au business de la déforestation, un homme, le chef indien Almir Suri.
Bonjour à tous et à toutes.
Avec sa tribu, il a décrété un moratoire sur l'exploitation forestière, replanter 100 000 arbres et lancer un projet de compensation carbone qu'il vend aux entreprises. Ces armes, Google et les nouvelles technologies. En 2013, Almir Suri a raconté son combat dans un livre « Sauver la planète » coécrit avec l'ethnomusicienne Corinne Sombrin.
La planète est grande et en même temps, elle est petite.
Moi, quand j'ai rencontré Almir, il a réveillé en moi cette capacité à se dire, bah, après tout, même si je suis tout seul contre tous, je le fais quand même. Et même si je risque ma vie, parce qu'il est menacé de mort, bien sûr, par les exploitants forestiers qui l'empêchent de déforester, eh ben, il le fait quand même. Et ça réveille en chacun de nous cette capacité à nous défendre et à affirmer la force qu'on a. Symbolique de leur combat s'est passé avec Google Earth. C'était en 2007, Almir Surhuy était déjà menacé de mort, on veut l'assassiner, il a un contrat de $100,000 sur la tête, il est évacué en Californie. Et bien sûr, il a eu accès à des ordinateurs et à un logiciel qui s'appelle Google Earth. Et lorsqu'il a eu ça en main, il a fait comme fait chacun de nous quand on est sur Google Earth. Qu'est-ce qu'on fait? On va pointer à l'endroit où on habite et on va voir ce qu'on trouve, voilà, à cet endroit-là. Et il va pointer sur leur territoire, et là, qu'est-ce qu'il découvre? Il y a écrit « territoire inhabité ». Alors ça l'énerve un peu, bien sûr, il se dit « mais comment, et nous alors? Et nous, on vit là? Pourquoi c'est inhabité ?» Et l'association qui s'occupe de lui en Californie, qui l'aide aussi à faire passer son message sur ce qui se passe en Amazonie, l'emmène là où se trouve Google. Et il se dit, mais je voudrais les rencontrer, ces gens de Google, puisqu'ils ont écrit qu'il y avait territoire inhabité, et déjà corrigé cette erreur, et peut-être nous aider à lutter contre la déforestation, parce qu'il a compris que, en fait, le plus gros problème sur leur territoire aujourd'hui, c'est la déforestation clandestine. C'est-à-dire qu'ils ont un territoire qui fait à peu près 10 fois la ville de Paris, 250 000 hectares. Aujourd'hui, ils sont 1400 et ils peuvent pas, bien sûr, surveiller un territoire comme ça. Donc, les déforesteurs en profitent. Donc, ils vont carrément installer des scieries clandestines sur leur territoire, bien planquées, et ils coupent du bois, ils leur volent du bois. Almir a instauré un moratoire interdisant la vente de bois. Parce que pour eux, la forêt, c'est le supermarché, c'est l'école, c'est la pharmacie, c'est tout ça. Et ils nous disent, si nous, on n'a plus la forêt, on est mort. Alors, Almir a dit Google Earth, ça permettrait peut-être de surveiller la déforestation et de montrer au gouvernement à quel point on est impacté par ces vols. Alors, quand il est en Californie, il dit, bon, ben, je veux prendre rendez-vous avec les gens de Google Earth. Et le copain obtient un rendez-vous avec Rebecca Moore, qui est la responsable de la branche humanitaire de Google. Le problème, c'est qu'elle a 30 minutes à leur accorder. Donc, ils entrent dans le bureau de Rebecca Moore et ils commencent à parler. Et puis, 30 minutes passent, et puis 1h30, et puis 2h, et puis 2h30. Et non seulement Rebecca Moore est passionnée par ce qu'elle est en train de lui raconter, qu'elle va chercher les directeurs des autres départements. Et au bout de 3 heures, il y a plusieurs directeurs de département dans le bureau, dont le responsable de Google Earth. Alors Almir, il est présenté et il lui dit, bah tiens, justement, je voulais vous dire 2 mots à vous. Pourquoi, quand on pointe sur Google Earth, sur notre territoire, il y a écrit territoire inhabité? Alors, grand silence dans le bureau, le monsieur s'excuse et dit qu'il va réparer cette erreur, bien sûr. Et lorsqu'Almir s'en va, Rebecca Moore lui dit qu'elle va en plus les aider à les former sur informatique et les former sur Google Earth et sur des satellites pour leur permettre de surveiller la déforestation. Ça a permis de fermer 14 scieries clandestines quand même sur leur territoire. Tous les Surhuy sont maintenant, c'est le peuple high-tech. Pour eux, c'était important parce qu'au niveau international, ils sont devenus les Indiens que Google soutenait. Et on a parlé partout où Almir après était invité dans le monde. On disait, ah, vous êtes les Indiens high-tech, vous êtes soutenus par Google et tout ça. Et alors Almir a continué. Hein. Aujourd'hui, il est aussi à l'aise avec un arc et des flèches qu'avec un iPhone, avec Google, avec YouTube, avec Facebook, avec tout ça. Et en fait, il faut bien comprendre que les Indiens sont 0,4% de la population au Brésil. Donc au niveau électoral, ça représente mais rien du tout. Donc ils ont décidé de faire du bruit. Et ce qu'il a du mal à comprendre, c'est pourquoi nous, on n'écoute pas leurs conseils. Pourquoi on continue de déforester? Pourquoi on n'entend pas que cette forêt, effectivement, elle peut être rentable sans la détruire? Alors arrêtons de la détruire. Donc c'est ça qu'il a du mal, lui, parce que c'est pas dans sa culture. On écoute ce que dit l'autre et puis on essaie de faire ensemble. Dans leur tribu, ils font toujours comme ça. C'est-à-dire que même si tu n'es pas d'accord avec moi, ce que tu as à dire est forcément intéressant. Et Almir a cette position toujours, même avec les pays occidentaux qui ne sont pas sa culture, mais dont il repère le plus intéressant. C'est joli ce qu'il dit, c'est qu'on constitue une forêt à tous. Et qu'il y a des essences différentes dans chaque forêt, mais qu'elles sont toutes utiles. Quand on mélange tous ces savoirs, ben on fait une belle forêt.
Vous êtes un terre indigène. indigène sur France Inter.
Dans ce même endroit, il y a eu 10 kogis qui ont été enlevés par des groupes militaires. Et donc nous luttons pour que ce genre de choses ne se produisent plus.
Vous êtes en terre indigène, sur France Inter.
La partie kogi, estuvimos como dormidos, ¿no? Nos sentíamos como culturalmente, ¿no?
On était culturellement comme endormis, et avec la pénétration des petits frères, on a dû se réveiller et agir.
En Colombie, chez les kogis.
Qui sont les kogis? C'est bizarrement extrêmement difficile à le dire. Par exemple, le mot kogi est un mot espagnol, mais en fait, leur vrai nom, c'est cagba, qui veut dire les gens. Or, kogi veut dire les vilaines personnes. Donc, finalement, on a repris ce terme pour les appeler de vilaines personnes. Il y a un monsieur qui s'appelait René Char, qui désignait toutes ces sociétés-là comme les invisibles, c'est-à-dire ceux qu'on ne voit pas, qui empêchent que notre développement puisse arriver à son terme. Mais c'est, à mon avis, parce qu'ils sont empêcheurs de se développer en rond, qu'ils sont une chance pour nous, pour réinventer un monde plus équilibré demain.
Et ahí, en eso, con todos esos trabajos, y sabemos que eso es territorio ancestral. 370 hectares, desde arriba hasta aquí.
Oui, nous avons pu racheter des terres, en effet, environ 370 hectares, et nous avons replanté. Donc on peut voir déjà aujourd'hui le résultat d'une vingtaine d'années de reforestation.
Voilà, ils habitent dans une montagne qui a la particularité d'être la plus haute montagne du monde en bordure de mer. Il faudrait que les auditeurs ferment les yeux pour imaginer une montagne qui se dresse à l'aplomb de la mer des Caraïbes. Il y a 38 km entre le niveau de la mer des Caraïbes, et les sommets qui sont à 6000 mètres. Donc il y a au moins 7 ou 8 écosystèmes différents. et les Kogis se sont repliés au cœur de cette montagne et arrivent à préserver leur culture depuis 4000 ans. C'est comme si on pouvait s'asseoir devant 15 000 Mayas, ou 15 000 Incas, ou 15 000, je sais pas, Aztèques, et qu'on se parle, la vie, la mort, les étoiles, la science, les femmes, et vous, vous en pensez quoi? Donc c'est, on a du mal à le réaliser, parce qu'ils viennent de si loin. Et en même temps, ils vivent en 2016, ouais, ils sont à la même époque que nous.
Il faut plusieurs heures de marche depuis la route pour arriver sur le territoire des Kogis. Un sentier abrupt au cœur de ces hautes vallées de la Sierra Nevada nous conduit entre les feuillages épais de la forêt tropicale jusqu'au premier village. Quelques huttes faites de palmes et de torchis. C'est ici que plusieurs familles se sont installées il y a 15 ans. À cette époque, il n'y avait plus d'arbres, plus d'animaux sur cette terre pillée par le narcotrafic. Une association créée par Éric Julien les a aidés à racheter leurs terres et les Kogis sont replantés, fait des offrandes pour que la nature se réveille. Les Kogis se disent les grands frères et veillent à l'équilibre du monde que les blancs, les petits frères, sont en train de détruire.
Entrez pour debout. La selva est très importante, on cambia su.
Marcher dans la forêt, c'est très important, ça change nos esprits.
Todo ese sonido de los aves.
Tous ces bruits des oiseaux.
Eso quiere decir que ellos también están alegres.
Ça veut dire qu'eux aussi sont joyeux. Le site est entouré de lieux sacrés. Qui était tombé aux mains des colons et qui maintenant sont revenus dans nos mains.
Recompradas.
Ça a été racheté.
Porque había, por eso les digo, toda esa zona era de coca, coquera, zona coquera.
Cette zone était une zone de plantation de coca.
Pero el gobierno metió el ejército antinarcótico, empezaron Rosalo a sacar, y entonces lo han acabado mucho.
Le gouvernement a dû faire intervenir l'armée et a donc répandu des produits chimiques, a arraché aussi les plantes d'une manière mécanique, ce qui nous a causé des dommages.
J'imagine que pour vous, c'était absolument terrible, hein, cette période-là.
Sí, nos tocó duro. Hasta nos tocó pagar unos mismos, ¿no?
Oui, ça a été très dur pour nous. Nous avons même payé de nos propres vies.
Muertes. Sequestros.
Des cas d'enlèvement et d'assassinat.
Pero el gobierno anterior fue metió mano y acabó todos esos grupos ilegales.
Ça a été dur pour nous, mais le dernier gouvernement a réussi à éliminer ces groupes illégaux et à racheter les terres.
La question des terres en Amérique du Sud et ailleurs, hein, c'est la question de la colonisation. Et donc, ils ont perdu 80% de leurs terres depuis... Si je résume l'arrivée de Christophe Colomb, mais ça s'est surtout accéléré depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ça s'accélère encore plus. Mais derrière la Terre, c'est une vision du monde. Nous parlons de la Terre et de la nature comme un paysage, une dimension esthétique, voire un terrain de loisir, et au pire, une source de matière première inépuisable. Eux parleraient plutôt que de paysage, ils parleraient de paysage. Comment un paysage est enseignant? Et comment nous devons retrouver une relation d'alliance puisque nous en dépendons pour boire, nous nourrir, nous habiller, etc. Donc je trouve que dans ce dialogue paysage-paysage se trouve résumée toute la difficulté de notre échange et de notre rencontre.
Et donc justement, quand vous les rencontrez, une de vos premières actions, ça va être de les aider à racheter des terres.
Puis maintenant, 20 ans, 30 ans, je ne sais plus, on essaie de collecter des fonds pour racheter des terres. On leur a rendu 2000 hectares. À la fois c'est ridicule, 2000 hectares... face à ce genre de difficulté d'accès à la terre, et en même temps c'est immense. Il y a, je sais pas, 400 personnes qui vivent, une centaine de familles, il y a 3 villages. On a réussi à faire ça ensemble. C'est-à-dire que pour ces sociétés-là, c'est le travail spirituel qui précède le travail matériel. Donc ensemble, on arrive à faire quelque chose. Et je pense pas qu'on le fasse pour les Kogis, je pense qu'on le fait pour la vie, et c'est ça qui me touche beaucoup.
Uno recoge la semilla, todo lo que va a sembrar.
Les agriculteurs mettent toutes leurs... graines, les plants qui vont être ensemencés dans la maison communautaire du village. Et le mamo les purifie. Ce travail spirituel de purification dure 9 jours, car le monde a été fait en 9 jours. Et ensuite, après ces 9 jours, chacun va ensemencer la bâtie. On va dire au revoir. au jardin.
Pour dire au revoir au jardin, vous tendez vos mains. Vous avez dit un petit mot après, c'était quoi ?
C'est ce mot qu'on vient d'entendre, qui veut dire la mère nature.
Des prières et des offrandes à la mère nature pour qu'elle puisse retrouver sa force et son équilibre. Ainsi en ont décidé les Mamos. Ces personnages énigmatiques veillent à l'ordre spirituel de la communauté. Vêtus d'une simple tunique blanche, le sourire aux lèvres, Yukal semble avoir 200 ans.
Chez les Gogi, le Mamo est la plus haute autorité du village. Dans notre langue, ça veut dire soleil. C'est celui qui regarde toute la planète et qui est connecté spirituellement à la mère nature.
Et alors quand il frotte sur son poporo, qui est donc une sorte de calebasse, qu'est-ce que vous faites là ?
Le poporo que l'on frotte est remis à l'adolescence, aux hommes. Il marque le passage à l'âge adulte. En ce moment, les phénomènes naturels se modifient. La pluie change, les saisons changent, beaucoup de choses changent. À cause de notre mauvais usage de la mère nature.
C'est vrai que pour nous, c'est un peu déroutant, ce genre de personnage. Les Mamous ont une formation qui dure 18 ans dans le noir. 18 ans, dès que les enfants sont sevrés, vers 6, 7, 8 mois, ils sont mis dans des grottes ou dans des lieux spéciaux pour cette éducation. Ils ne revoient plus la lumière du jour avant 18 ans. Donc, ils ont une relation, j'allais dire, presque physiologique au vivant. Pour essayer de vous l'illustrer, peut-être, nous sommes, nous, dans des sociétés que j'appellerais exotériques, c'est-à-dire qui s'intéressent à ce qu'elles voient. Des sociétés comme celle-là, c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est ce qui se passe sous le capot, dans la tête, les émotions, les énergies, les croyances. Donc ce seraient des sociétés ésotériques, non pas au sens mystérieuse, mais au sens où elles s'intéressent à ce qui n'est pas visible. Et c'est tout le fondement de leur philosophie.
Aujourd'hui, nous sommes très inquiets. Nos petits frères, ceux qui vivent hors du territoire, sont en train de détruire, de violer la mer des courges, la mer des haricots, la mer des fruits. La mère nature, c'est comme une personne. C'est une femme, une mère. Elle est faite de sang et d'os. Mais nous l'avons tellement exploitée qu'elle n'a plus de sang. Nous avons extrait du pétrole, du charbon. Tout ça fait partie du corps de la mer. Aujourd'hui, elle est épuisée, usée. Elle risque de ne pas survivre. Et nous, ça nous préoccupe beaucoup. Et la raison pour laquelle nous, en tant qu'indigènes, nous prenons soin de cette nature, c'est parce qu'il est écrit dans l'histoire que c'est elle qui détient toutes les connaissances. C'est pour cela que nous devons tous ensemble prendre soin d'elle.
Pourquoi est-ce que tout le long de cette interview, le Mamo ne nous regarde pas ?
On m'a dit de le faire. C'est comme ça.
Il s'est retourné carrément. Il tourne le dos.
Des peuples comme les Indiens Kogi et d'autres n'ont jamais perdu ce lien. Nous sommes la nature, nous en faisons partie dans un grand tout qui nous dépasse un petit peu. Et c'est pour ça qu'ils nous appellent petits frères, parce qu'ils comprennent pas pourquoi on détruit ce dont nous avons besoin pour vivre. Alors quand ils nous regardent massacrer ce vivant et le considérer comme une ressource naturelle, ça les laisse infiniment perplexes, ça c'est sûr. Chez eux, tout est signe. Un oiseau qui siffle, un vent qui change, un éclairage vous renseigne sur quelque chose. Donc nous sommes des peuples qui devenons sourds, aveugles et muets, pour reprendre la petite métaphore des trois singes qui se cachent les yeux, les oreilles et la parole.
Voyage interindigène sur France Inter. En Colombie, chez les Kogis.
Bien que vous ayez affronté de nombreux dangers, quel est le plus grand aujourd'hui ?
Los puertos, medioambientes, arqueológicos y muchas empresas, turismos, mina.
Ça fait beaucoup toute cette liste de dangers, hein.
Larga lista, exacto.
Il y a aussi donc, les ports, les entreprises internationales, le tourisme.
L'archéologie.
L'archéologie, voilà, exactement.
Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis.
Pero hemos vivido con la fuerza espiritual.
Mais nous avons vécu avec la force spirituelle.
Les Kogis ont payé très cher leur refus de quitter leur terre. 680 Indiens ont perdu la vie en 13 ans à la fin des années 80. Alors les Mamos ont décidé de s'ouvrir au monde extérieur. Ils ont envoyé un messager auprès du gouvernement. Depuis, la Colombie a reconnu l'existence légale des Indiens en 1991 et de jeunes Kogis sont allés étudier à la ville pour mieux défendre leurs droits. Ils sont devenus comptables, juristes, avocats ou journalistes. C'est le cas d'Arigosé Zabata qui lutte aujourd'hui, caméra au point.
Pour que je puisse venir ici,
alors que je faisais mes études à Santa Marta,
je devais rester en contact avec les Mamos pour ne pas perdre cette connaissance ancestrale, pour ne pas perdre cette vie en commun avec les Kogis. Par conséquent, je venais tous les week-ends, tous les mois. Je ne pense pas avoir beaucoup changé. J'ai appris les deux cultures, parfois ici, parfois en bas.
Et c'est vrai que quand on vous voit en tenue traditionnelle, magnifique, hein, tout en blanc, avec le sac tressé, avec le poporo et en même temps le téléphone portable, on se dit que vous êtes vraiment entre deux mondes.
Exactement. Lorsque je vais là-haut, je laisse mon téléphone, mes livres, mes papiers, tout ça. Et je monte comme ça. Souvent, j'y vais pieds nus. Je porte d'autres vêtements, un autre sac. Je suis un autre homme.
Ils commencent à comprendre les mécanismes de l'homme et de la femme moderne. Et donc, ils ont fait des zones dans ce territoire. Effectivement, ils ont fait un pourtour de la montagne avec des points contacts. Et dans ces points contacts, c'est là qu'on peut se rencontrer, se parler, et que le monde civilisé peut dialoguer avec le monde traditionnel. Un Indien Kogi qui resterait trop longtemps dans ce point contact pourrait risquer de perdre sa culture et de perdre sa dimension spirituelle. Donc, ils vont le remettre dans la zone 2, qui est une zone à 2-3 heures de marche, où là, il y a nettement moins de visites, pour pas dire pas du tout, il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Et parfois, ils les remettent dans la zone 3, qui est vraiment au cœur de leur territoire, et là où ils voient plus personne. Et ils sont dans un travail spirituel très intense, pendant plusieurs mois, pour se recentrer, retrouver leur culture, redevenir complètement Kogi, avant, dans 3 ou 4 ans, de revenir sur la zone tampon. Donc il y a une espèce de gestion de leur culture et de leur identité qui est d'une intelligence, je ne sais pas s'ils en y réussiront, je leur souhaite, assez phénoménale. Ouais.
Alors c'est une belle image parce qu'il y a la petite fille qui est allongée dans la brouette, les autres qui jouent avec des bouteilles plastiques et derrière les femmes qui discutent. Vous revenez des champs? Et pourquoi elle ne me répond pas? Par timidité? Elles sont timides, les femmes?
Donc, se leur a posé un microphone ainsi.
J'ai jamais mis un micro comme ça devant eux et bon, ça les perturbe.
Alors voilà, moi, ce que je vous propose, je vais vous faire écouter votre voix.
Non, non, je ne veux pas. Elle a à peine, elle est timide.
Ah, ça y est, elle est partie. Est-ce que de temps en temps, il n'y a pas des conflits entre les deux êtres?
Claro, porque nosotros, por ejemplo,
bien sûr. Les indigènes qui sont là-haut ne partagent pas ce que nous faisons en bas et seulement en bas. Parce qu'ils ont peur de disparaître un jour. L'idée n'a jamais été de faire disparaître cette culture. Au contraire, nous allons récupérer encore plus que ce que nous avons perdu. C'est pourquoi nous remontons dans la forêt. Nous restons avec les Mamos et nous leur avons proposé de continuer à étudier avec eux. Le point positif, c'est que nous avons étudié et que nous connaissons la partie occidentale. Nous avons donc une longueur d'avance sur eux concernant la culture. Du coup, nous avons étudié pour pouvoir chasser les gens qui étaient sur la partie haute de la forêt. Il faut être armé pour les chasser. C'est pour cette raison que nous avons étudié, c'est pour pouvoir chasser ces personnes.
C'est vrai que c'est des gens qui apprennent à vivre serein. Voilà, et cette force qu'ils transmettent à leurs jeunes via leur chaman, sans doute, oui, leur a permis de passer 4000 ans. Maintenant, la pression augmente. Nous augmentons la pression. Est-ce que ça va être suffisant pour résister? Je ne sais pas. Je rappelle qu'ils ont en face d'eux la guérilla, les paramilitaires et la mafia, ce qui ne sont pas des gens très posés, on va dire ça comme ça. On les repoussait plus haut pour planter plus de coca, on les repousse plus haut pour déforester, effectivement. D'ici quelques années, s'il ne se passe rien, ils vont disparaître, c'est clair. Plus précisément, soyons précis dans nos mots, nous allons les faire disparaître. Donc les mamous, certains mamous ont choisi de s'ouvrir et d'essayer de parler, d'expliquer à l'extérieur les enjeux et ce qui se passait. Quand ils sont venus en France, il y en a qui sont venus en France expliquer ça, ils ont dit à la fin du voyage, est-ce que vous entendez ? Ça, c'est la question. On est dans l'éthique de conviction, il y a beaucoup de gens qui sont à peu près convaincus qu'on va vers une direction pas terrible. Maintenant, ce que les Kogi demandent, c'est une éthique de l'engagement. Est-ce qu'on va y aller? Et là, c'est un grand point d'interrogation.
Des paroles, ces peuples vous ont parlé tout l'été sur France Inter. Ils représentent 370 millions de personnes dans le monde. Aujourd'hui, ils attendent des actes. Des actes qui garantissent leurs droits, leurs terres, leurs ressources et leur survie. Les écouter, échanger, agir et rêver. Comme le disent les zapatistes mexicains, il y a une place dans le monde pour bien des mondes.
It's a long time, I don't know if you know. I am sitting, yes I am, looking for to know. If you do like me too, if you really feel the same. Do you like me to like you? Comme moi, je vous aime.
I love you. Do you love me? Do I love you? Do I love? I love you. Do you love me? Do I love you? Do.
Do you know? I don't know. Do you know how much I care? Care of you? I do so. Je ne sais pas si je suis clair. You know what? Don't you see? Don't you feel it in the air? It is me, les amis, and I'm ready to declare.
I love you, do you love me? Do I love you? Do I love you? Do you love me? Do I love you? Do
I'm not sure, mon amour. Je ne connais pas bien l'histoire. Je ne sais pas quand elle court. Je ne sais pas si je peux la croire. I'm not sure, ça c'est sûr. Que tu m'aimes et puis c'est tout. I'm not sure, mon amour, d'avoir toujours rendez-vous.
Bengue qui m'aime, mais nous ne wetirions vilous amés. I love you. Bengue qui m'aime, mais nous n'aimons mon biporos way. I need you. Que aquí me demen un huetiri o vilos came. And I love you. Venga aquí me demen un angem buen buen biporos way. I love you.
Merci à Djobaka pour la programmation musicale que vous pouvez retrouver sur franceinter.fr. Sur notre site, vous pourrez d'ailleurs prolonger le voyage avec la Fondation Barbier-Muller et Alban Bensa, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie.
La chance de la Calédonie, c'est d'avoir eu cet accord de Nouméa qui a permis une maturation pour arriver à une invention d'un nouveau mode de vivre ensemble, montrant que des solutions consensuelles pouvaient émerger plutôt que de s'enliser dans le conflit. Alors c'est sûr que les Calédoniens, on les regarde. Les Palestiniens ont dit, tiens, ce serait bien si on arrivait à faire la même chose. Et ça pourrait être un nouveau modèle, si vous voulez, dans la tentative de sortir de ces schémas de décolonisation sans issue. L'enjeu, comme le répètent souvent ironiquement les Kanaks, c'est que la France réussisse enfin une décolonisation.
Voyage interindigène.
Une série d'Anne Pastor.
Montage Thomas Loupias, mixage Lucas Vaillant, un documentaire réalisé par David Rochier. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette série de voyages, Violetta Duarte, Mariana Baldi, Édouard de Pernouat, Stéphanie Tseluyuko, Alexandra Carrasco.
Cette émission a reçu le soutien de l'agence Shanti Travel et de la fondation BMF.
À très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, vous pouvez réécouter toute la série sur franceinter.fr.